en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Elisabeth Antebi reçoit aujourd'hui pour un habit vert Monsieur Michel Déon. Michel Déon, j'ai l'impression de recevoir un véritable dolmen, un mythe. Mais vraiment, c'est très impressionnant de vous recevoir. Et en ce moment, chez Gallimard, en collection Quarto, viennent de paraître les œuvres choisies avec une préface de vous-même qui parle du roman. Quelque part, vous dites qu'il n'y a pas de romancier, qu'il n'y a que des romans, enfin qu'il n'y a pas de vie de romancier, ce qui est une coquetterie, parce que quand même, vos romans parlent de votre vie, donc c'est un peu un jeu de miroir, et on le redira, on vous répondrez tout à l'heure. Et vous parlez du roman qui met le monde au pied de son lecteur, et à la dernière page, laisse désemparé un orphelin qui accepte mal son retour au temps réel.
Ça n'est pas toujours le cas. Enfin, dans tous les livres que nous lisons, que nous recevons, mais enfin, dans cette masse de lectures de toute une vie, il y a quand même quelques livres qui m'ont poursuivi, dont le souvenir ne m'a jamais quitté. Donc, parfois, je pourrais même citer des pages entières.
Alors lesquelles, par exemple ?
Tout le début de La Chartreuse de Parme est pour moi une espèce de cavalcade merveilleuse, si pleine de charme, d'enthousiasme, de jeunesse, que c'est un livre. C'est pas un très bon roman, La Chartreuse de Parme. Et les personnages sont très inégaux. Le héros est, par exemple, un jeune crétin, enfin, qui entraîne tout le monde, toute sa famille, dans des complications inouïes. Et c'est même aussi un assassin. Et c'est aussi un homme, au fait, il termine sa vie dans une chartreuse, alors qu'il a montré très peu de foi dans sa vie. Donc c'est pas ça qui est intéressant dans La Chartreuse de Parme, c'est Stendhal. Stendhal, il est là derrière chaque phrase. Il s'est assimilé au personnage principal sans avoir sa maladresse et sa bêtise. Il est là, c'est lui le personnage bouleversant, intéressant, l'œil vif, la parole vive, l'intelligence, le goût de la musique. C'est admirable. La première phrase de La Chartreuse de Parme c'est l'entrée des Français dans Milan. Ça, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus beau.
Dites-la.
Non, je ne suis pas un bon acteur, mais c'est
vous,
vraiment.
Finalement, vous vous décrivez. Vous vous décrivez avec l'œil vif, etc.
Non, je suis un romancier, j'ai de l'imagination. Naturellement que je me serve des choses que j'ai regardées, je suis bien obligé de parler d'une maison, d'une porte, d'une voiture ou d'une femme qui passe, mais c'est mon imagination qui travaille. Je me sers évidemment des matériaux qui passent à ma portée, et je me sers aussi certainement de mon expérience personnelle, mais il y a peu de personnages. Dans les romans, peu de personnages qui soient vraiment moi. Sauf peut-être le premier livre, Je ne veux jamais l'oublier. Où là, évidemment, c'est assez transparent. Et c'est d'ailleurs un livre, bon, il dure depuis plus de 50 ans, donc je ne vais pas le rejeter. Et je m'aperçois qu'il est toujours traduit dans des langues étranges, d'ailleurs. Et donc c'est un livre qui a une résonance, une signification, parce que c'est le livre d'un jeune homme aventureux, amoureux, impécunier, mais se moquant de l'argent et désirant avant tout sauver sa liberté. Et bien ça, peut-être, c'est un petit peu moins dans les années qui ont suivi la guerre. Ça, c'est le seul roman qui soit, disons, pas autobiographique du tout, mais dans lequel il y a une grande part de vérité.
Et La Chambre de ton père ?
Ah, mais ça, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas un roman, c'est ce que j'ai pris le soin d'appeler un récit. Il y a une nuance. Il faut distinguer un tout petit peu dans le genre de livre qu'on publie. Il y a des sottises, j'ai écrit une sottise. Et j'ai écrit aussi des romans, j'ai écrit des récits. Ce n'est pas du tout la même chose. La Chambre de ton père, en fait, c'est simplement l'histoire d'un enfant. C'est moi, oui. parce que l'enfance, on n'imagine pas très bien celle des autres, mais on imagine très très bien ce qu'a pu être et ce qu'aurait pu être. Et c'est donc que je ne dis pas que la chambre de ton père, c'est un récit d'une parfaite exactitude. Il y a le romancier qui a travaillé dessus, qui a pris des raccourcis, qui a sauté par-dessus certains obstacles, et qui, au contraire, s'est conclu à s'attarder sur deux ou trois images, simplement parce qu'elles lui plaisaient, elles étaient romanesques, et elles avaient beaucoup de charme. Donc, ne prenons pas ça pour des mémoires, prenez ça pour un récit. Vous savez, quand les gens parlent, quand ils racontent des histoires, ils disent pas toujours la vérité, ils arrangent un petit peu les choses. Et moi, je ne crains pas de le faire, puisque c'est mon métier, c'est ma vie, j'ai vécu dans les livres, par les livres. J'ai fait d'autres choses, j'ai été un petit peu journaliste, mais je suis essentiellement un auteur de romans.
Oui, vous le dites à un moment donné, d'ailleurs, je crois que c'est dans Les Poneys Sauvages, votre personnage irlandais, donc votre professeur irlandais, il dit à un moment, enfin il y a une phrase que je voudrais bien retrouver parce que je ne vais pas la dire comme vous l'écrivez, bien entendu. Vous dites à un moment donné que, lui écrit dans une lettre qu'il vit les choses à travers les livres et qu'il a la sueur des livres, le sang des livres. C'est une phrase assez extraordinaire parce que il est vrai que quand vous parlez des gens, quelquefois en vous relisant, on se dit que vous les décrivez comme des paysages.
Peut-être, oui. Vous savez, un auteur ne se juge pas très facilement lui-même. Et c'est quand on dit des choses comme vous venez de m'en dire que tout d'un coup, on se met à réfléchir, on dit « Ah ben oui, peut-être, en effet, et vous avez peut-être raison ». Des paysages, il y en a pas mal, parce que j'ai beaucoup remué dans ma vie, j'ai habité dans pas mal de pays, j'en ai changé, et là, dernièrement, je suis un petit peu fixé sur l'Irlande depuis quelques années, même depuis une trentaine d'années, en fait. Mais les paysages, en effet, importent beaucoup dans mon...
C'est-à-dire, ils ont...
J'osais pas dire mon œuvre, mais enfin, c'est un peu dans mes romans. Mais que les personnages soient décrits... En fait, ils sont pas très décrits. Il faut les juger d'après leur action et d'après ce qu'ils disent. Mmh. Mais je crois que c'est une erreur pour un romancier de décrire par le menu, le visage d'une femme, son corps et tout. C'est au lecteur à faire ça. Le lecteur, il faut le faire travailler. Et d'abord, il ne demande que ça. Il demande, à participer au livre, n'est-ce pas?
Les hommes sont plus décrits que les femmes. D'ailleurs, je voulais savoir, quand je vous parlais de vous, est-ce que ça vous agace, ce jeu de miroir? Est-ce que ça vous instruit sur vous-même quand on vous dit, tiens, j'ai lu ça dans vos livres, j'ai l'impression de ceci ou de cela? Est-ce que ça vous enrichit ou est-ce que ça vous ennuie, finalement?
Non, rien ne m'agace, je vous garantis tout de suite. Simplement, j'aime bien rectifier certaines choses parce que je peux me tromper d'ailleurs, je peux me tromper sur moi-même, comme c'est très facile de se tromper sur soi-même. Mais je suis toujours un peu surpris de la façon dont, de la leçon ou de la façon dont on aborde un livre et de la leçon qu'on en tire. C'est pas tout à fait celle que j'avais prévue. Souvent c'est beaucoup plus intelligent que moi. Un romancier, c'est pas forcément quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'un peu sensible, c'est quelqu'un qui a une façon de transformer sa vision du monde et d'en faire une histoire. Je parlais avec Kléber Hédin, souvent, qui était un grand ami, un merveilleux critique, et il m'a dit deux choses qui sont capitales parce qu'elles étaient exactement comme moi. Il m'a dit sur la fin de sa vie, il dit j'ai été très heureux toute ma vie quand je travaillais. Quand je ne travaillais pas, j'étais malheureux. Ça me paraissait une chose tout à fait essentielle pour un écrivain. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, après avoir écrit un roman dont je lui ai dit, écoutez, vraiment délicieux, c'est presque meilleur que toi. Il dit, mais c'est parce que nous, les romanciers, nous sommes des imbéciles. Simplement, nous sommes des liens entre un lecteur et une chose imaginaire créée. Et il m'a dit, c'est certain, et j'en suis pas, pour être un bon romancier, il faut être un peu bête.
Oui, mais bête n'est peut-être pas le mot. Mais vous voulez vous situer, en fait, quand on vous a appelé les grognards et les hussards. D'ailleurs, je trouve que vous êtes mieux, enfin, c'est plus que les hussards, le fameux hussard que vous appelez le pantosane des journalistes ou quelque chose comme ça. C'est une expression, donc, rappelons-le, inventée par Bernard Franck dans un article des temps modernes qui s'appelaient les grognards et les hussards, je crois. Et j'ai toujours trouvé que ça, les grognards allaient mieux à l'espèce de personne que vous étiez, puisque vous grogniez contre les temps dits modernes, les temps d'après-guerre, non ?
Non, simplement quelques petites colères de temps à autre, mais
grogner, non, pas du tout,
il était très désinvolte. Non, non, moi je ne vois aucun qui ait été un grognard, en fait.
Et un hussard, alors ?
Ben, hussard... Oui, vous savez, ça veut pas dire grand-chose. C'est la charge, c'est la cavalerie qui charge un petit peu, qui tire un peu dans toutes les directions.
Je crois que c'est Jacques Laurent qui disait qu'il sentait plutôt un fantassin, non ?
Oui, bah, oui, moi aussi, j'étais plutôt d'ailleurs pendant la guerre de 39-40, j'ai été fantassin. Donc, j'ai pas beaucoup vu les hussards pendant ces brèves guerres que j'ai faites. Mais non, vous savez, c'est une image un peu raccourcie. Et sous ce titre-là, on pourrait amener beaucoup, beaucoup d'autres écrivains que Jacques Laurent, Nimier,
oui, Blondin justement,
et moi.
On parle toujours de cela, alors que quand on regarde votre vie, d'ailleurs à la fin de ces œuvres, il y a une... On peut même pas appeler ça une biographie, je crois que c'est votre fille qui a fait le déroulé de votre vie avec des photos, avec des citations, avec des... Et on voit que finalement, les quatre fameux, on ne cite jamais Laudenbach, qui a compté énormément pour vous, je crois.
Mais oui, parce que c'est un homme qui a un petit peu sacrifié sa vie d'écrivain. Le métier d'éditeur est un métier formidable, c'est un métier d'aventurier, c'est un métier à risque, c'est un métier ingrat, où on ne reçoit jamais que des coups et très rarement des fleurs. Et Roland Laudenbach a été vraiment quelqu'un de très important dans notre milieu littéraire. D'abord, il a créé une maison d'édition.
La table ronde,
il l'a créée contre vents et marées, il l'a maintenue. Il s'est sacrifié à ça, il n'en a jamais, de la part des auteurs, recueilli que beaucoup d'ingratitude, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce que ça vous donne une bonne idée de l'humanité. Mais je le tiens pour quelqu'un de très important dans le siècle littéraire de ma génération, dans le temps de ma génération.
Vous avez rencontré aussi un autre grand monstre sacré dont peu de gens parlent, que peu de gens ont connu, car il se voulait éminence grise dans un sens. C'était Orengo.
Ah oui, lui c'était l'éditeur type, n'est-ce pas ? Il n'était pas écrivain, c'était un éditeur type. Il était venu à l'édition d'ailleurs par des voies extrêmement détournées. Que je n'ai pas trop cherché à savoir.
Personne ne cherchait trop à savoir.
Non, c'était assez bien dissimulé. Non, c'était un homme solide, d'une parfaite fidélité dans son travail, et d'une parfaite honnêteté aussi dans son travail, et qui a remis sur pied la maison Plon, dont il était le directeur littéraire. Il l'a remis sur pied, il a créé des collections qui ont été des grands succès, et il a appelé autour de lui des gens qui ont une grande valeur, parce qu'il avait appelé Jean Mallory pour la collection Terre humaine, il avait appelé Michel Tournier pour les collections littéraires, Henri L. Et moi, j'ai à un moment même aussi travaillé avec lui entre deux escapades, j'ai travaillé avec lui, et c'est un excellent souvenir que j'ai gardé de lui. Et c'était un homme qui pensait pas seulement au livre qu'il allait publier, c'était un homme qui pensait à votre vie. Vous savez, j'avais à peine donné un livre chez lui qui n'était même pas sorti, c'était au mois d'août, j'étais en Espagne, et il me téléphone et dit « Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une bourse Rockefeller pour les États-Unis ?» Je dis « J'arrive ». Et en effet, j'ai passé un an aux États-Unis. C'était pas dans mon contrat, dans mon livre, c'était quelque chose d'autre qu'il apportait à ma vie, un espace de liberté, un voyage extrêmement intéressant, très protégé, parce que quand on est un Rockefeller Boy aux États-Unis, toutes les portes s'ouvrent, et j'ai passé un an absolument merveilleux, grâce à lui, et tout d'un coup, ce coup de téléphone, alors que je remontais de la plage, j'ai senti que là, il y avait quelque chose à prendre. Et bien, Orengo était quelqu'un qui perpétuellement donnait à ses auteurs d'autres portes.
Y en a-t-il encore de cette race-là ?
Non, je ne crois pas.
Nous allons interrompre un petit moment et retrouver Michel Déon très bientôt.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Elisabeth Antebi, Habit Vert, avec Michel Déon, que nous retrouvons tout de suite. Et j'ai retrouvé entre-temps, bien entendu, la citation que je cherchais tout à l'heure des poneys sauvages. « Ce sont les livres qui m'ont apporté le souffle du vent, l'âcre odeur du sang et les sueurs de l'amour. » Est-ce que votre existence était si livresque, Michel Déon ?
Non, mon existence était livresque dans la maison où je travaillais à mes livres. Autrement, je vous promets, j'ai vécu.
Oui, alors il semble que tous ces so-called hussards, parce que, et puis les autres, enfin ceux qui ont accompagné, avaient d'ailleurs plongé leurs plumes dans l'esprit de vin, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un baptême très solide dans votre jeunesse, je crois, avec Blondin, avec qui on ne pouvait pas parler sans prendre une cuite.
Je vous en supplie, il ne faut pas réduire Blondin à ses
un merveilleux écrivain.
À ses cuites et à ses calembours. C'était un homme, c'est un superbe écrivain, d'une rare intelligence, d'une immense culture dans sa jeunesse. Après, il a moins lu, et c'était quelqu'un qui avait réinventé l'amitié. Alors, bien sûr, on le montre toujours un verre à la main.
Qu'il était très chaleureux.
Sur le déclin de sa vie, où évidemment, il ne maîtrisait plus tout à fait ses colères, son agressivité, mais je me garde le souvenir d'un écrivain d'une finesse extrêmement rare.
Oui,
et peut-être pas vraiment ce que j'appelle un romancier, parce que lui, il est vraiment très très présent dans ses livres, et c'est lui qu'on reconnaît à chaque page, donc c'est sa propre vie qui est là, qu'il a mise en jeu, mais avec un immense talent. Alors, pour l'amour du ciel, les calembours, laissons-les tomber, les verres de vin, de pastis, la bière, tout ce qu'il a ingurgité, ça c'était son affaire.
Oui, mais il y avait un folklore même romanesque de l'alcool et du vin. Non, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, ce n'est pas l'anecdote. Il y a un romanesque dans vos livres, dans les livres des autres, de cette espèce de fraternité. Vous dites réinventer l'amitié. C'est vrai que vos livres sont des livres d'amitié, à tous d'ailleurs. Et vous parlez beaucoup de Jacques Laurent, que vous citez immédiatement d'ailleurs dans l'introduction de vos œuvres.
Oui, Jacques Laurent, un brillant esprit. Et alors là, disons une chose, c'est de toute cette petite clique, c'est probablement le plus intelligent, c'est-à-dire la lucidité, le caractère, le don. Il avait absolument tout pour lui. Qu'il l'ait un peu gâché, certainement, parce que on n'écrit pas impunément des romans comme il en a écrit.
Caroline Chéry, vous voulez dire.
C'est pas mal, vous savez, si on regarde un ou deux...
C'est bien Caroline Chéry, j'avais
vu. C'est bien, mais il était tout à fait, lui, d'un autre niveau, tout à fait. Alors, on le sent dans certains de ses livres, notamment dans Le Petit Canard, qui est absolument superbe, ou bien dans Les Ensembles Flous, qui sont des livres de grande qualité. Mais voilà, il s'est un peu dispersé, il a fondé des journaux, il a gagné beaucoup d'argent, tout ça c'est catastrophique pour un écrivain, il faut qu'il reste un peu tranquille, qu'il ait un peu plus d'ambition. Mais il pensait peut-être que tout était bon et que les livres écrits sous le pseudonyme de Cécile Saint-Laurent valaient les autres. Mais enfin, alors pourquoi a-t-il choisi un pseudonyme? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire que c'était une des plus brillantes intelligences, les plus sensées que j'ai jamais rencontrées.
À cette époque aussi, vous découvrez, je crois, et puis vous lui dédiez un livre, la seule hussardette de la bande, si je puis dire, c'est-à-dire Françoise Sagan. Qu'est-ce qui vous a touché tout de suite chez Françoise Sagan? Son titre, Bonjour Tristesse, ou quoi?
Ah non, je vais vous dire... À cette époque-là, j'étais à Match. que je détestais.
Et que les Bérédas, d'ailleurs, vous avez dit que vous alliez en partir.
Oui, que j'allais en partir. Oui. Je ne supporterais pas cette bande de pignouf atroce. Et je venais de temps à autre chez Plomb, comme ça, je passe un matin, et on me dit, la secrétaire qui était là, Michel Bourtin, me dit, oh, y a un manuscrit qui vous amusera peut-être. Et là, a été déposé hier. Et une jeune fille, elle a 18 ans. Et bon, alors je prends ça en disant, bon... Hein, et puis je le lis dans, peut-être en 2 heures, très vite. Et je dis, mais il n'y a pas d'autre, c'est formidable. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre comme Guerre et Paix, mais c'est un livre de son époque. Un livre qui parle de la jeunesse, elle avait 18 ans, de son époque, et de ses rapports avec les adultes, c'est-à-dire les parents. Et c'est délicatement écrit, avec esprit, avec beaucoup de charme, quelques petites fautes qui sont normales et qui sont par rapport, qui sont dans tous les livres, on a toujours besoin du regard d'un autre sur un livre. Et je suis revenu le lendemain et j'ai dit, mais il faut le lire, j'ai dit, Rago, il faut prendre ça. Et il m'a dit, bon, je vais le lire, vous voulez pas me faire entièrement confiance. Il l'a lu en 3-4 jours, puis il l'a passé au PDG. En lui disant, c'est très bien, le PDG, qui était Maurice Bourdel, lui a mis 15 jours pour le lire. Et on a téléphoné en disant, oui, c'est très bien, mademoiselle, voulez-vous venir signer un contrat? Elle a dit, oh, mais hier, j'ai signé avec Julliard.
Ah oui. Oui, c'est ça, là, donc, l'histoire. Et après, vous avez eu une amitié avec
elle. Ah, ben,
puisque vous lui avez dédicacé les trompeuses espérances.
Oui, mais vous savez, j'aimais beaucoup, c'est quelqu'un d'une très rare intelligence, est une formidable lectrice, très très bien, elle avait la tête bien pleine, était gaie, était charmante, était facilement heureuse, et c'était un être dont je garde un souvenir absolument exquis. On m'a reproché d'avoir écrit des choses extrêmement chaleureuses sur elle, et d'avoir aussi ajouté, malheureusement, elle a manqué d'ambition. C'est-à-dire que ce qu'elle avait très joliment réussi dans ses premiers livres, elle ne l'a pas creusé, elle n'a pas développé, elle ne l'a pas affermi, elle ne lui a pas donné les muscles qu'il fallait, et elle a écrit un peu au fil de la plume, alors que elle avançait en âge, et puis que le roman, même d'une façon générale, se transformait.
Est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes réfugié finalement, enfin réfugié entre guillemets, sur des îles? Parce que l'île revient tout le temps dans votre histoire. Il y a Robinson Crusoe, je crois que vous lisez tout petit. Quand vous recevez Frédéric Vitou, vous commencez par l'île Saint-Louis. Bah oui, ça m'a frappé ça. Vous parlez beaucoup des îles. Vous dites même pour Frédéric Vitou, oui, vous lui dites, vous parlez de l'anatomie d'une île. Ça, c'est intéressant, l'anatomie d'une île. Bon, alors je rappelle aux gens quand même que vous vivez en Irlande et puis que vous étiez beaucoup, beaucoup, beaucoup à Spetsai, en Grèce. Alors bon, cette idée d'île. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'île pour vous isoler très relativement d'ailleurs ?
Vous savez, beaucoup de romans qu'on lit dans son enfance vous marquent pour le reste de la vie. Il est certain, vous avez cité Robinson Crusoe, c'est le premier livre que j'ai vraiment lu et qui m'a vraiment impressionné. Il y en avait un second qui suivait, qui était beaucoup moins bon, qui s'appelait Les Robinson Suisses. Alors là, c'était un homme seul, c'était toute une famille isolée sur une île. Et ensuite, à partir de... Puis, alors, il y a eu L'île au trésor de Stevenson, qui sont comme pour moi des... Tout ça sont pour moi des livres majeurs de l'époque de la formation de ma jeunesse.
Pas Jules Verne.
Jules Verne,
L'île au trésor.
Bien sûr. Non, j'ai raconté quelque part que... À un moment, quand j'étais malade, mon père revenait le soir et il m'a lu entièrement L'île mystérieuse. Et en plus, je dis, il avait un bateau, il naviguait pas mal, il m'emmenait pas très loin, parce que j'étais un peu faible, un peu malade, surtout à cette époque-là. Mais enfin, nous allions dans les îles Lérins, nous allions aux îles d'Hier, et puis nous sommes allés en Corse. Donc j'ai déjà eu une idée des îles dans ma première jeunesse. L'île aussi, c'est une espèce de refuge, je disais. Paul Morand disait que c'est le dernier refuge des aristocraties. Et c'est pour ça que très souvent, je me suis senti intéressé par d'autres îles. Mais je n'ai vraiment pu réaliser mon rêve que la quarantaine venue, quand je suis parti m'installer en Grèce, dans une île où là j'ai vécu de très nombreuses années. Et là j'ai vraiment eu l'expérience de ce qu'est la vie dans une île, petite communauté de 900 personnes, un peu de monde pendant l'été et personne pendant tout l'hiver, tout le monde vivant d'une façon assez fruste. Et tout d'un coup, une société en miniature que vous pouvez étudier, dans laquelle vous trouvez tous les défauts et toutes les qualités de l'homme et de la femme. Et comme j'étais avec ma femme était le lien qui manque généralement à ce qu'on appelle les enquêteurs de la vie. Elle était le lien formidable qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à parler des îles en connaissance de cause.
Et puis, vous avez la mer, c'est-à-dire, c'est l'ultime limite. Vous dites à un moment donné de votre jeunesse, nous regardions loin devant nous comme les marins la mer immense, fermée par un horizon mouvant. Donc, vous avez la mer. Or, vous dites à un moment donné que c'est au fond ce que les Américains appellent la dernière frontière. Les Romains, d'ailleurs, s'y sont affrontés avec les Écossais, puisque les Écossais disaient que plus loin, il y avait que la mer, les récifs. Vous êtes dans un monde de... Parce que la mer, l'île, on imagine toujours qu'on est enfermé sur une île. Mais on n'est pas si enfermé que ça. Il y a quand même l'horizon et la mer.
Non, on est assez enfermé quand même dans une île. Je veux dire, on est séparé du monde et de temps à autre, il y a ce lien, le bateau qui apporte la correspondance, le courrier, les paquets, un peu de quoi vivre. C'est quand même un endroit où vous ne sortez pas facilement, n'est-ce pas? C'est très bien, c'est très très bien. Tout d'un coup, ça supprime toute agitation. Et pour un écrivain, on ne peut pas rêver d'endroits meilleurs.
Mais alors, il y a ce monde où on cuit les œufs, comme vous dites, sur la flamme du soldat inconnu qui vous rejoint quand même, parce que vous avez cette terrible expression, c'est terrible ça, des dieux grecs que vous évoquez souvent. Ils ont fui la poésie et la poésie les fuit, les remplaçant par des pommes de terre, des lessiveuses et des persiennes. Mon Dieu, mon Dieu. En sommes-nous là?
Ah bah oui, oui, oui. Maintenant, mais pire que jamais.
Le jeune homme vert est-il désenchanté?
Ah bah oui, non. Bah, nous sommes... Enfin, je pense que des gens très jeunes aujourd'hui seront désenchantés d'un monde, s'il y en a un, dans 20 ans encore. Mais pour
non, moi... Non, avez-vous le sentiment, ce qui est plus profond, d'être passé vraiment, d'être un univers à un autre, où les synapses ne sont plus les mêmes, où on est dans un virtuel au lieu d'être dans l'abstrait, ce qui est très différent? Et où les gens, finalement, n'ont plus les références pour vous lire. Est-ce que ça vous vient parfois, quand vous parlez à des gens?
Non, ça m'est égal. Non, ça. Non, d'abord parce que...
Ça vous est égal, l'immortalité vous est égal.
Non, complètement non. Mais je veux dire, je ne suis pas du tout... D'abord, je ne me pose pas vraiment ces questions-là, ça n'a aucune importance. Mais simplement, je m'aperçois d'une chose, c'est que je suis lu peut-être beaucoup plus par des gens très jeunes que je ne l'ai été quand j'étais moi-même très jeune. Je vois dernièrement dans une librairie, une jeune fille qui vient vers moi, qui avait 16 ans, et me dit oh, vous savez, j'adore les poneys sauvages. Je lui dis, mais est-ce que vous pouvez voir dans les poneys sauvages ce que j'ai vécu, la guerre, les sentiments? Elle dit, mais non, mais tout est bien, c'est tout inventé. Peut-être a-t-elle même cru que la guerre de 1939-1945 était une invention de romancier. Mais j'ai quand même cette chance que mes lecteurs se soient renouvelés. J'ai souvent, j'ai reçu hier une lettre d'une vieille dame de 93 ans qui me dit je vous relis dans œuvre, je suis très heureux, je vous lis, et puis je reçois des lettres de jeunes étudiants, plus généralement, au contraire, qui sont très fidèles. Alors je me dis ça, c'est amusant parce qu'au moins pendant ma vie, j'ai touché à plusieurs générations à la fois.
Est-ce que vous avez le sentiment que vous partagez la même insolence? Le même désordre au sein de l'ordre, parce que au fond votre histoire c'était de dynamiter, de dégéométriser en connaissant la géométrie, comme disait Picasso. Il faut connaître la géométrie pour savoir dégéométriser, disait-il.
Mais on apprend à écrire des romans en écrivant des romans, on n'apprend pas ça dans les livres.
Maintenant il y a des cours aux États-Unis, vous le savez.
Oui, mais
on apprend dans les prisons.
Oui, c'est très bien. Peut-être que l'intéressant c'est de permettre à des gens de s'exprimer, non pas seulement par la parole, mais s'exprimer par l'écrit. Et peut-être en même temps de mesurer la difficulté de l'écriture. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais enfin jamais les ateliers d'écriture n'ont produit un romancier d'importance ou de talent. Jamais.
Nous allons nous interrompre encore une fois, donc Michel Déon, Habit Vert avec Elisabeth Antebi. Nous reprenons Habit Vert avec Michel Déon. Alors, nos grands rebelles de toutes ces années-là, et Dieu sait s'il y en avait, parce que tous les gens qui se pressent autour de vous, il y a aussi Jean Anouilh qu'on a oublié. Jean Anouilh, est-ce que vous pouvez nous raconter quand vous allez en Suisse et qu'il refuse d'être à l'Académie française, pourquoi refuse-t-il ?
Oh, il l'a refusé, mais je crois que c'est plutôt des questions de famille.
Ah bon ?
Qui
Vous l'avez regretté ? Vous avez pensé que c'est
regretté,
dommage ?
Moi, j'ai regretté profondément. Je ne sais pas s'il aurait été un académicien très utile, mais il nous aurait profondément honoré, parce que c'est un très grand dramaturge.
Et alors, tous ces rebelles, finalement, qui entrent à l'Académie française, est-ce que vous pouvez me dire, au fond, ce que représente pour vous, ou pour Jacques Laurent, à l'époque, l'Académie française ?
Nous en avons tous dit dans notre jeunesse, dit un peu de mal, nous avons ridiculisé dans nos livres quelques académiciens. Ça m'est arrivé à moi, c'est arrivé à Jacques Laurent, c'est arrivé à beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, quand je lis dans le livre d'un écrivain de 40 ans ou 50 ans, de très vivre des sarcasmes sur l'Académie, je me dis, voilà, celui-là s'apprête à y entrer. Non, c'est, vous savez, la vie, on évolue dans l'existence. On est un peu un rebelle dans sa jeunesse, par force, par contamination, parce que tout vous agace. Donc, moi aussi, j'ai évolué. Et puis, je connaissais quelques académiciens qui étaient des hommes exquis d'une grande érudition. Je pense à Émile Henriot, je pense à Jean-Louis Vaudoyer, je pense à un homme absolument merveilleux qui était Jean Missler. Ils sont des hommes tout à fait intéressants. Et ça, j'avais la plus grande admiration pour Pierre Gaxotte comme historien. Et comme philosophe, j'étais à la fois un ami et puis un grand lecteur de Thierry Mounier. Et c'est peut-être pour rejoindre ces gens qui m'avaient ou précédé, ou qui étaient encore là, ou qui allaient y entrer, que je me suis dit, mais au fond, cette attitude anti-académique, c'est une sottise, parce que je peux là rencontrer des hommes exceptionnels qu'autrement je ne rencontrerais pas. Et puis en même temps, j'avais une certaine fâcherie avec la France, c'était le moment de passer l'éponge et d'oublier, à la fois pour la France et pour moi.
Pourtant, vous avez la France sur votre épée d'académicien, vous avez les lys. Ben le lys français.
Oui, j'ai la monarchie. Oui,
vous avez la chouette, l'intelligence grecque. Et vous avez, pour l'Irlande, vous avez le trèfle, je crois.
Le trèfle.
Oui, le trèfle. Donc, au fond, c'est les trois pôles de votre vie.
Ben oui, ce sont vraiment les trois pôles de ma vie. Enfin, les trois attractions majeures. La fleur de lys, c'est vraiment la France dans laquelle je suis attaché.
Vous n'aimez pas la Gueuse.
Non, j'aime pas la Gueuse, mais la France, je l'aime profondément. Et puis, je suis attaché. J'ai un cordon ombilical qui s'appelle la langue française. J'aurais pu écrire en anglais, ça m'arrive un peu quelquefois, mais je ne vais pas.
Est-ce que c'est très différent quand vous écrivez en anglais, pour vous ?
Ça dépend, parce que si j'ai en anglais, ça ne peut être d'ailleurs qu'un article. Autrefois, dans ma jeunesse, c'était souvent les poèmes. Ou bien, il faut que je traduise quelque chose de moi-même. Oui, c'est une démarche beaucoup plus... un peu plus difficile, d'abord, parce que il y a toujours une hésitation et il faut toujours chercher le naturel. Très rares sont les écrivains qui peuvent écrire en deux langues. Un des rares, c'est Valérie Larbeau. Comme grande partie du journal, l'Estime est tenue en anglais.
Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu qu'un des grands écrivains que vous admirez, je crois que c'est Morand, dit que finalement votre dernier livre le rase? Ça, c'est très drôle en introduction.
En même temps.
Vous avez été vexé ou pas quand même?
Non, pas du tout. On s'en fout complètement de ce genre de choses-là. Non, d'autant plus que j'avais 5 ou 6 lettres de lui me disant: c'est le plus beau de vos livres, c'est passionnant, vous êtes passé au sommet maintenant et ça. En fait, ce qu'il y a, je comprends ça assez bien, tout le monde le sait, nous avions un petit peu aidé certains écrivains à rentrer dans le circuit, à ne plus être excommunié par la politique. On l'a beaucoup aidé.
Et même expurgé à l'Académie même.
Et puis, nous avons aidé à rentrer. Et Morand, il nous devait ça, mais il n'aimait pas tellement se souvenir qu'il nous devait ça à nous. Et il a vu avec un peu de jalousie, lui qui a été l'écrivain le plus fêté entre les années 1920 et 1940. Il voyait tout d'un coup des jeunes garçons qui étaient venus le tirer du pétrin et qui avaient des succès qu'il enviait. Ce qui ne l'a pas empêché, sur la fin de sa vie, d'écrire quelques-uns de ses plus beaux livres, comme Le Flagellant de Séville ou Venise. Je crois qu'il y avait une part d'envie. Vous savez, les écrivains s'adorent pas entre eux. Hein. C'est rare, c'est pas...
On a parlé de votre humour. Or, ça, c'est une des choses qu'on revoit quand on relit certaines de vos œuvres. On découvre un humour qui est un drôle d'humour, d'ailleurs, qui n'est pas un humour british du tout. Est-ce qu'il y a un humour irlandais, ça existe, ça? Parce que tellement british. C'est pas... c'est à moitié français, moitié irlandais, moitié va savoir quoi. Par exemple, alors là, je dis... un des poèmes qui, à moins que vous vouliez le dire, qui est avec un dessin de vous en 1954. Vous avez un petit dessin, mais extra. Moi, j'aime beaucoup extra, comme disent les mômes. Et vous l'accompagnez de cette légende, si on peut dire. Une étoile de mer, un peu amère. Une île, une tour, en plein jour. Un deux-mâts rêve tout bas. Et une barque... ce n'est pas un braque.
je n'écris pas de poèmes, très peu quand j'étais jeune, comme tous les jeunes gens, tous les enfants, entre l'enfance et l'adolescence, se sont un peu pris par la poésie. Peut-être il me manquait, pour écrire des poèmes, j'ai toujours pensé qu'il me manquait un sens musical que je n'ai pas toujours vraiment.
Et pourtant, vous avez une sœur, je crois, musicienne, vous aimez la musique, vous avez même écrit un opéra bouffe.
Mais j'ai écrit, oui, un opéra bouffe, qui s'est joué cet été.
Ah, cet été, où ça?
Il s'est joué dans un festival, et j'espère qu'il va venir à Paris. Enfin, j'espère pour le musicien, parce que moi, ça ne m'intéresse plus. Non, j'aime beaucoup la musique, mais j'ai... peut-être, je ne suis pas savant en musique. Mmh. Or, ce qui me plaît dans la poésie, c'est sa musique. C'est d'être pris par quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et c'est très particulier, par exemple, à Valérie Larbeau, à Jean-Marie Levet, des poètes comme ça, à Sandras aussi, c'est formidable. C'est formidable. Pas qu'à New York, ou la prose du Transsibérien, je trouve que c'est des chefs-d'œuvre inouïs. Je trouve que la chanson du mal-aimé d'Apollinaire, je le cite tout le temps, toute ma vie, dans tous les livres, je cite toujours la chanson du mal-aimé. C'est pour moi le poème total, le poème le plus complet qui soit. Donc je ne me suis pas hasardé à écrire des poèmes. Enfin, j'ai écrit en prose des choses qui sont peut-être, disons, assez poétiques. Enfin,
j'aimerais bien que vous nous lisiez à la fin un tout petit texte, parce qu'on découvre aussi dans ces œuvres, les œuvres choisies. C'est-à-dire, moi j'ai découvert, je ne connais pas tout, donc j'ai découvert, ce qui était certainement très connu par ailleurs, que vous aviez frayé avec des dessinateurs et des peintres, et que vous avez écrit des petits, je ne sais pas comment vous appelez ça, des petits morceaux, comme on écrit des morceaux musicaux. Il y en a vraiment très très bien, et j'aimerais que vous m'en lisiez un à la fin. Mais pour rester sur le chapitre de l'humour pour l'instant, il y a aussi ce dessin de Ben qui m'a fait rire et qui vous représente, qui est publié dans votre bouquin, et qui représente la forêt de Brocéliande avec Sartre. Ce qui est très dangereux, c'est Sartre qui est en chouette, vous en écureuil, et vous êtes sous la branche. Or, quand on sait combien Sartre se plaisait à éructer, on a un peu peur pour vous qui êtes juste sous. sous la chouette. D'ailleurs, il dit la chouette. Votre chère chouette, c'est représenté par Sartre. C'est quand même terrible.
Oui.
Non ?
Non, mais en fait, c'est pas la chouette, lui, c'est le hibou.
Voilà, ah oui, c'était le hibou. Évidemment, c'est différent. Alors, quelquefois aussi, on pense à Malaparte, y compris dans l'humour, parce que dans la vieille Europe, là, dans le texte sur l'Europe qui est morte, Malaparte aussi vitupère sur les rats qui sortent des caves de Saint-Germain-des-Prés. Mais autant Malaparte est baroque, autant vous avez l'œil froid, ce que Vaillant appelait l'œil froid de l'érotisme, si je puis dire. Alors vous n'avez pas de l'œil froid de l'érotisme, mais l'œil froid qui est tout à fait étonnant. Quand vous considérez tous les malheurs du monde, y compris les femmes d'ailleurs, les femmes souvent vous les considérez d'un œil, dans vos romans, assez froid, et surtout elles passent. Elles passent et, parce que par exemple Angèle s'en va.
Mais vous savez ce qu'elles font de mieux?
Bah, Joan reste réduite à un bouton, ce qui n'est pas très gai, puisqu'elle explose, enfin si je puis dire. Y a l'autre qui met le désordre dans la vie des gens, la Sarah, qui elle aussi passe au fond. Delia, qui est une représentante des dieux grecs. Bon, voilà. Au fond, toutes ces femmes, vous aimez bien les hommes, si on peut parler ainsi, mais les femmes passent.
Oui, bah c'est leur métier.
Très bien, c'est leur métier.
Je suis marié depuis 40 ans.
Mais oui, ça c'est la différence entre les livres et l'homme. Alors, il y a un des livres qui est, j'avoue, mon préféré, après tout, il faut bien que les lecteurs disent quel est leur préféré, qui est La Montée du Soir. Et dans La Montée du Soir, ce que j'aime particulièrement dans La Montée du Soir, c'est assez sot, mais c'est que ce ne soit pas la tombée du soir. Et que tout monte dans La Montée du Soir. C'est-à-dire, on vous remonte, même Radamante, votre juge des enfers de chiens, vous remonte la canne que vous avez perdue. Vous ne la retrouvez pas et vous la remonte entre les dents. Vous avez d'ailleurs des drôles de noms de chiens, hein, parce qu'il paraît qu'il y en a un qui s'appelle E.T. chez vous et votre cheval Zidane, c'est vrai ?
Oui, E.T. c'est l'extraterrestre.
Oui.
Et le dernier qui a 5 mois, pour lequel j'ai une passion, parce qu'il est tellement intelligent et tellement attentif, je l'ai appelé Quarto.
Ah.
Et Zidane, c'est ma femme qui, elle, élève des chevaux, elle a un rat et elle chasse à cour, elle a un équipage, elle chasse à cour et c'est à elle qui s'occupe des chevaux. Moi, je m'en
Et pourquoi Zidane dit... Parce qu'il donne des coups de tête ou...
Non, parce qu'elle aimait bien le nom, parce qu'elle aimait, elle ne regarde jamais un match de football, tout d'un coup, un jour, elle en a vu un, elle l'a vu jouer, elle l'a trouvé, et c'est vrai, c'est un athlète complet, et c'est un homme, surtout, on voit bien, c'est un sportif d'une grande droiture, et qui a fabriqué une vie, vraiment c'est un homme épatant, enfin, on voit ça tout de suite dans ses déclarations, dans son attitude, et elle a un étalon qui est superbe, ma femme, elle a le champion d'Irlande, le champion de Grande-Bretagne, enfin, c'est un étalon très recherché dans le monde du cheval, et elle a dit, mais il ne peut avoir que ce merveilleux joueur de football.
Alors, c'est curieux parce que c'est une découverte quand même que vous aimiez Zidane. Il y a un autre homme qu'on n'imaginait pas.
C'est plutôt
pas.
Ma femme que moi.
Mais vous, alors, il y a quelqu'un, au fond, que vous avez accueilli et recueilli un moment, qui est Michel Houellebecq. Et ce qui est amusant, ce qui m'a amusé, c'est que vous aviez été élu à l'Académie française au fauteuil de Jean Rostand. Qui s'occupait beaucoup des grenouilles, et il paraît qu'avec Houellebecq, vous regardiez en silence passer les grenouilles sur les chemins.
J'avais pas fait le rapprochement, mais en effet, non, mais je regarde, parce que je suis un marcheur aussi maintenant. Bon, sur la fin de sa vie, on a les sports violents, la boxe, le bateau, tout ça, c'est un petit peu dépassé. Mais je suis resté un marcheur, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours un chien, parce que marcher avec un chien, c'est tout à fait différent. Je suis un marcheur et je regarde naturellement beaucoup. Et le fait d'avoir un chien, ça vous permet de repérer des choses, de voir des oiseaux s'envoler, des lièvres d'étaler, un chevreuil surgir d'un buisson. Si vous marchez, la nature est complètement tranquille, ça, tout le monde se cache, c'est pas de danger. Mais avec un chien, lui, il réveille absolument tout. C'est pour ça que j'ai des animaux toujours avec moi, un chat sur ma table quand je travaille, et un chien par terre à mes pieds. Ce sont vraiment les gens qui m'aiment bien.
Les grenouilles ?
Alors les grenouilles, nous les avons gardées parce que c'était amusant. Tout d'un coup, nous avons marché dans la forêt, tout d'un coup, il y avait une grande pluie, et tout d'un coup, je me suis aperçu que le chemin que nous suivions, qui est au bord d'un lac, il y avait 10 grenouilles par mètre carré. Il y avait des endroits où il y en avait une centaine, elles couvraient complètement le chemin, c'était assez intéressant. Et là, à ce moment-là, on peut reprendre dans ses mains les grenouilles.
Vous les avez mangées ?
Oh non, je mange pas. Enfin, ça m'est peut-être arrivé dans un restaurant qui s'appelle Roger la Grenouille à Paris. Mais le grenouille, c'est très ennuyeux parce qu'il y a presque rien sur la cuisse. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Et Michel Houellebecq, alors, pourquoi ? Parce que les grenouilles, c'est bien. Mais Michel Houellebecq, pourquoi Michel Houellebecq ?
Parce que j'étais très intéressé par son premier livre, enfin le livre premier de lui que j'ai lu, qui s'appelle L'extension du domaine de la lutte. Et qui est un livre très frappant sur l'époque, sur aujourd'hui, sur la façon d'être, sur le...
Ah, mais il parle d'une île aussi.
Il adore Lanzarote, et où il est allé plusieurs fois pendant plusieurs étés. Il a même fait lui-même un album de très mauvaises photos sur Lanzarote, mais il en parle très très bien. Non, j'aimais bien, puis je l'ai rencontré, c'est un garçon très intelligent, c'est le seul aussi qui avait lu un peu les mêmes auteurs que moi dans sa jeunesse.
Par exemple ?
Il avait lu Aldous Huxley, qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui, mais qui a eu une influence considérable sur moi dans mon enfance, dans mon adolescence. Il était
mais
aussi...
Mais quel, Le zéro et l'infini ?
Le zéro et l'infini, Aldous Huxley,
du tout.
Non.
Excusez-moi, oui. Non. C'est drôle que je confonde avec Hessler.
C'est La paix des profondeurs, c'est le cercle vicieux, un livre absolument formidable. Et j'avais lu ça, et puis en même temps, c'est un positiviste. C'est le seul garçon que j'ai rencontré de son âge qui soit un fanatique d'Auguste Comte. Et pour moi, c'est peut-être le seul philosophe que j'ai approché, aussi avec Bergson quand même.
Vous savez ce qu'il y a écrit sur la statue d'Auguste Comte à la Sorbonne ? Ni Comte, ni Sponville ont été des étudiants. Mais alors justement, vous aviez lu aussi dans votre enfance, paraît-il, Le Dernier des Mohicans. Est-ce que, au fond, tous ces gens-là, les derniers des Mohicans se perpétuent ? Est-ce que tout le monde croit être le dernier des Mohicans ? Et puis finalement, est-ce que vous avez trouvé des gens jeunes dans les générations d'aujourd'hui et qui perpétuent un certain style d'écriture, un certain style d'approche du monde ?
Oui, peut-être, mais peut-être pas beaucoup, parce que je regarde, ils se racontent à eux-mêmes la plupart du temps. C'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle d'une façon générale l'autofiction. Et je trouve qu'ils ont un regard extrêmement limité sur le monde, alors que le monde est d'une variété infinie. Il est constamment surprenant dans les caractères, dans les aventures. Nous sommes tout le temps pris à contre-pied. Or, je vois, ces romans sont tous un peu de la même coulée, enfin, c'est-à-dire assez plaintifs, assez hargneux. Peut-être est-ce bien qu'il y ait cette marée de romans pour que les quelques romanciers qui vraiment justifient leur existence de romancier se distinguent de ce magma.
On s'est demandé s'il y avait encore des philosophes après Heidegger. Est-ce qu'il y a encore des romanciers ? Est-ce qu'il peut y avoir des romanciers après Kundera, au fond ? Après une certaine conception du roman. Je parle de Kundera parce qu'il a écrit quelque chose
Mais Kundera,
extraordinaire sur le roman.
Kundera est un homme que j'admire énormément, et en plus d'un ami, et c'est un homme pour lequel j'ai vraiment une grande affection, un grand attachement, et qui certainement, sur le roman, a écrit des choses assez capitales qui devraient faire comprendre à tous ces auteurs en herbe qui en sont déjà au deuxième ou troisième roman, et toujours le même roman écrit, réécrit. Et justement, ils l'ont pas lu, ça. Non, ils l'ont pas lu, ils n'ont pas lu l'art du roman de Félicien Marceau, et ils n'ont pas lu le roman du roman de Jacques Laurent, qui sont des livres capitaux. Ils n'ont pas lu non plus le livre que j'ai fait avec Lakis Progedis sur guerre et roman. Là, je pense qu'avec l'aide de ces critiques, essayistes, hommes tout à fait remarquables, créateurs de l'atelier du roman, je crois que là, nous avons abordé quelques-uns des problèmes que le romancier doit se poser avant de se lancer éperdument sans réfléchir dans un roman.
Quel est le roman que vous proposeriez à un jeune romancier qui viendrait vous voir en disant « je voudrais un modèle, je voudrais un exemple ». Je voudrais le prendre en vous, évidemment. Lequel de tous ces romans, finalement, comme Okuzai, vous savez, à la fin de sa vie, qui disait « je commence tout juste à savoir dessiner un arbre », quel est le roman que vous pensez avoir bien dessiné ?
Je pense que le roman, il y a un roman qui est, disons, assez unique. Je crois qu'il était bien compris en France, dans les traductions, ça... On a dit oh, c'est trop français, c'est tous les clins d'œil, y a ça. En fait, c'est un roman sur la création littéraire qui s'appelle Un déjeuner de soleil. Je pense que c'est le moins mauvais de mes livres, et que dans ce livre-là, j'ai non pas donné un secret, mais j'ai joué avec l'art du roman, comme on peut se permettre de le faire une fois, n'est-ce pas? Parce que c'est un livre finalement assez littéraire, mais en même temps je crois que c'est un livre à la fois sentimental, romanesque et aventureux. Oui, je dis oui, c'est le moins mauvais de mes romans. Oui.
Merci Michel Déon.
La médiathèque de Canal Academy, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme ? Vous avez apprécié cette émission ? Vous aimeriez réentendre cet académicien ? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Academy. Le téléchargement est gratuit.
Nota Bene.
Alors, Utufu. Utufu est une île de l'océan Indien, uniquement peuplée de femmes. Une fois par semaine, atterrit sur la piste de son aérodrome un jumbo bourré à craquer de congressistes. La piste est de terre battue, sableuse, rouge comme le porphyre pilé. En se posant, l'avion soulève un nuage de poussière que les rayons du soleil matinal teintent d'ocre. Ce nuage est si dense qu'il masque Utufu pendant un long moment. Quand il se dissipe enfin, le commandant de bord fait ouvrir les sorties de secours. Un à un, les passagers sont invités à se laisser glisser sur les toboggans. Le spectacle qu'ils découvrent alors est si peu réel que pour y croire, ils doivent frotter leurs yeux rougis par l'insomnie. L'avion est entouré par des femmes qui forment un large cercle autour d'eux. Les Utufugiennes, grandes et bien faites, sont vêtus de sarons qui laissent libres leurs poitrines admirables. Le premier rang de leur cercle est agenouillé, portant sur les avant-bras une coupe en écorce remplie de fruits exotiques, tandis que le second rang brandit des colliers de coquillages et le troisième des couronnes d'odorants tiarés dont le parfum sucré chasse les derniers relents de kérosène. Encore hagards dans leurs vêtements fripés par 15 heures de vol, les 350 congressistes mâles se relèvent de leur chute brutale sur la piste, s'époussettent, mutuellement allument des cigarettes pour se donner une attitude, se peignent et resserrent les nœuds de leurs cravates. Alors des gorges splendides des Utufugiennes jaillit le chant de bienvenue, Mamae Itoto dans les paroles brave trop la décence pour qu'on les traduise ici. Les congressistes, eux, sont avertis. Pendant la durée du vol, ils ont suivi, grâce à des écouteurs, un cours accéléré de hutufugien. Les sonorités de cette langue leur sont familières. Bon gré, mal gré, même les plus stupides ont appris près de 500 mots et quelques éléments d'une grammaire simpliste. Aussi, les paroles de Mamae Itoto leur vont-elles droit au cœur et au bas-ventre. La démarche encore mal assurée, ils s'avancent vers les jeunes femmes. Au départ, l'agence a pourvu chacun d'eux d'un cadeau qu'il doit porter le bras tendu en avant pour que les belles jeunes femmes aient le temps d'en apprécier la qualité et l'utilité. Arrivés à 2 mètres du premier rang, les passagers s'arrêtent. Le plus naturellement du monde, ils se sont formés en un cercle concentrique au cercle des femmes qui choisissent leur partenaire en fonction de ce dont elles ont besoin pour leur maison. En échange, elles offrent à l'élu les fruits, les colliers de coquillages et les couronnes de fleurs. C'est là un moment exquis, tout de cette grâce réservée, de cette timide espièglerie qui est le fond du caractère des hutufugiennes. Les couples étant enfin appareillés, le commandant de bord offre son bras à la reine de l'île qui jusque-là s'est tenue avec dignité sous un dais à l'écart. D'un battement de cils, cette femme, de forte allure, accepte le bras du pilote et mène le cortège en direction du village. Le mot « village » plaît aux congressistes, soucieux de se plonger dans la nature, de retrouver les racines de la civilisation. En fait, il s'agit bien plus que d'un village, d'un complexe immobilier des plus modernes, créé grâce aux bénéfices des agences de voyage. Sans abandonner un pouce de leur tradition, les hutufugiennes ont sacrifié aux besoins des congressistes. Des bungalows en palme cachent des salles de bain en céramique de Provence avec des baignoires à 2 places et des bidets à jet. Des haut-parleurs disséminés dans les massifs de fleurs distillent une musique si suave qu'on dirait d'un parfum. Des servantes invisibles, en vérité ce sont des vieilles hutufugiennes inaptes aux ébats des congressistes, déposent sur les tables un des plats finement cuisinés et s'esquivent en silence. Les plaisirs les plus simples, comme les plus pervers, sont satisfaits au-delà de ce qu'on peut imaginer. Gavés jusqu'à en éprouver des ballonnements d'estomac, aimés jusqu'à en mourir de jouir, les congressistes vivent un orgasme ininterrompu. À la fin du séjour, le commandant, que tout le monde avait oublié, surgit de la case royale et rassemble ses passagers en soufflant dans un Bernard l'Ermite géant. La dure réalité se rappelle aux bienheureux. Le congrès est censé durer 7 jours et tout retard lèverait des soupçons chez les épouses légitimes demeurées au foyer. Il fait beau entendre à cette minute les protestations des hommes. On ne leur avait pas dit que ce serait si parfait. Ils auraient prétexté un plus long congrès, des motions difficiles à faire adopter par la majorité. À dire le vrai, ils demeureraient volontiers toute une vie. C'est là que joue le tact du commandant de bord. Il montre son autorité, mais avec compréhension, et rappelle que la profondeur vaginale des hutufugiennes est telle qu'en restant trop longtemps penché au bord de ces gouffres enchanteurs, on risque le vertige et la chute. N'est-il pas lui-même déchiré à l'idée de quitter la reine? Et pourtant, il répond au devoir, il regagne l'Europe, il rejoint sans plaisir le lit conjugal, les villes enfumées, les aéroports explosifs, les embouteillages, le sida qui rôde et le tiers provisionnel qui tombe. Hélas, une parole est une parole. Son ton de voix, ses arguments sont aussi convaincants que les congressistes, accablés, muets, se forment en cortège, chacun serrant la main de sa chacune et gagnent le terrain d'envol. La marche est plus lente qu'à l'aller. On s'enivre de serments. On s'effleure les parties intimes. Une dernière fois, on promet de s'écrire. Dressé depuis l'enfance à l'art de rompre, les utufugiennes sont parfaites. Lâchant la main de leurs amants, elles forment une double haie de chaque côté de l'avion. Les portes se referment, les réacteurs s'allument sous le vent d'un tourbillon de poussière. Nez écrasés contre les vitres des hublots, les congressistes tentent d'apercevoir une dernière fois leurs amis d'une semaine. Dès que l'avion commence à rouler, un nuage ocre masque les utufugiennes et c'est à peine si, dans une déchirure de ce nuage, on aperçoit un bras qui ondule la couleur vive d'un sarron. Pilotant au jugé, le commandant s'arrache de la piste à la seconde où son appareil allait s'écraser dans l'océan. Beaucoup de congressistes, parmi les moins cyniques, ont souhaité l'accident qui sauverait le souvenir édénique de leur séjour. Lorsque le jumbo a rasé les eaux palines du lagon, ils ont pu apercevoir une dizaine d'épaves de jumbo qui furent moins ou plus heureux que le leur. La transparence des eaux permet nettement de distinguer les squelettes de précédents congressistes dont la chair a régalé les barracudas et dont les eaux blanchies se fondent dans la barrière de corail jusqu'à n'être plus que coraux eux-mêmes. Bientôt, Utufu est à peine une émeraude sur l'océan de lapis-lazuli. Il était temps. Un autre jumbo pointe à l'horizon avec une nouvelle cargaison de congressistes. À l'intérieur du premier avion, ce ne sont que larmes et soupirs, mains qui se tordent, promesses à soi-même de revenir pour la vie. Seul le commandant de bord avoue son soulagement. La reine qu'il visite ainsi toutes les deux semaines est une dévorante. Il aimerait tâter de la dauphine dont les besoins semblent plus modestes et les chairs plus fermes.
C'était Michel Déon qui nous a fait l'extrême gentillesse et le grand honneur d'interpréter Utufu qu'il écrivit. Merci Michel Déon. C'était Habit vert avec Michel Déon par Elisabeth Antebi.